Merci beaucoup. Je voudrais ajouter au message de l'honorable une phrase qui, comme se doit, rester en date dans nos mémoires. L'auteur nous avait cité ses listes d'évanciers, et j'ajoute l'honorable parmi les meilleurs d'évanciers de l'auteur. Dire autant de choses qui ont sculpté l'histoire de notre pays et dire qu'on est loin de l'écriture, c'est faire œuvre difficile à tous nos conteurs de village. Honorable, vous êtes écrivain de l'eau. Pour qu'on marque sur une feuille ce qui s'est passé, il aurait fallu une mémoire comme la vôtre. Et c'est ça l'Afrique. Merci de nous l'avoir rappelé. Mesdames et messieurs, à vos grades respectifs, permettez-moi, même que c'est très difficile de parler après, un autre qui a écrit l'histoire de la représentation dans notre pays, comme le programme de Pipe. Il n'a pas beaucoup changé, Dieu merci. Au moment où je mesure le défi de vous présenter les différentes articulations de cette cérémonie, permettez-moi une fois de plus de vous souhaiter une journée. Cette dédicace spéciale. Spéciale de par la qualité des invités. Spéciale même par la spécificité du narratif. L'invincible adéquation entre les activités socio-professionnelles de l'auteur et sa capacité à trouver du temps pour scruter une histoire aussi passionnée qu'authentique. Spécial surtout par le niveau d'acquisition des savoirs savants et des œuvres de l'esprit que constitue la combinaison entre l'enseignant qui est à ma gauche, dont le rôle est de maturer par l'essentiel la vie de la jeunesse, et le maître du ludique qui va se présenter tout à l'heure lors des intermèdes, dont le rêve est d'adoucir les mœurs une fois, j'allais dire parfois, qu'un destin est brisé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous célébrons l'amour et la passion qui ont inspiré l'auteur à écrire ce roman poignant sur l'amour impossible. Oui, le roman que nous célébrons ce jour est un témoignage de la puissance de l'amour et de la créativité. Il nous montre que même dans des postures extrêmement difficiles, l'amour peut être une source d'inspiration pour un auteur et de force pour les victimes dont nous sommes. Ce n'est donc pas fortune et un hasard que nous ayons choisi l'Institut de formation des formateurs pour le développement, dont les programmes alléchants permettent de maturer notre pays pour l'avenir. Je voudrais vous demander une salve d'applaudissements pour le directeur de l'Institut. Tout le monde sait ce que l'administration publique dans notre pays. L'État concentre d'énormes moyens pour mettre des infrastructures en place et ces infrastructures découragent l'usager dès qu'ils arrivent au portail. Ceux qui sont entrés ici aujourd'hui savent très bien qu'à un moment donné, ils ont cru que nous n'étions pas dans une administration publique camerounaise. Une fois de plus, félicitations à M. le directeur. Son propos était le prologue idoine pour introduire un maître à sa pièce, professeur Sana Traoré. Brillant esprit qui a accepté de faire la note de lecture. Ce sens va se faire avant l'intervention utilement attendue de l'auteur Ramat Abadina, qui aura le loisir de répondre à toutes nos questions au cours de cet instant d'échange-débat avec le public, que je voudrais préciser, concis, clair et court, L'occasion vous sera donnée d'en savourer mieux et plus en vous procurant chacun un ou plusieurs exemplaires que l'ordre du jour signera pour que chacun brandisse son exemplaire dans la photo de famille que nous allons faire dehors et pour l'histoire. Comme savent le faire les Africains qui terminent toujours les retrouvailles par un à tel élève. Ce sera juste en face. Maintenant que j'ai placé le décor, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous inviter dans le cœur, dans l'âme et dans le corps à nous rejoindre ici sur cette table, à rejoindre surtout l'auteur Ramat Abadida pour une lecture et une discussion de son roman Aïcha à la barre, paru aux éditions Guy en 2025. Bien sûr, en espérant que l'histoire que vous avez dit et que vous avez acheté vous touchera et surtout va vous inspirer. Mesdames et messieurs, il aspirait à une relation basée sur le développement mutuel, où lui et sa partenaire pourraient grandir ensemble, apprendre l'un de l'autre et se soutenir dans leurs aspirations. Cette vision de l'amour était empreinte d'espoir et d'optimisme, représentant un nouvel horizon lumineux après les nuages sombres du passé. Ce passage que j'ai tiré de son livre m'a amené à me poser les bonnes questions et je crois que vous les poserez autant que moi. Qui mieux qu'un jeune, un jeune intellectuel ayant connu les mêmes rêves, qui enseigne et encadre le Cameroun de demain, peut mieux aujourd'hui comprendre et surtout en parler, mieux traduire l'expression de violence psychosomatique de la trame d'un roman au titre évocateur, Aïcha à la barre. Auteur lui-même d'une vingtaine d'ouvrages, ayant tous presque obtenu plusieurs distinctions littéraires, le fondateur du concept d'écrivain de l'aube, que concept dont j'ai collé à la personnalité de l'honorable tout à l'heure, manie la langue de Molière comme Edson Arantefdi de la Signato, plus connu sous le nom de Pelé, et Roger Miller, connu sous le nom de Mila, manie le ballon sur un stade de football. C'est actuellement, et ça ce n'est que qualité, parce qu'il accorde beaucoup de choses à rapporter dans la vie, le chef de département de français à la prestigieuse Université d'État de Ngaoundéré. Il nous a honorés en acceptant de faire la note de lecture du roman Aïcha à la barre. Souhaitons toute notre considération au grand professeur des universités, Hassana Brahim, sous vos applaudissements. Professeur, je vous laisse la parole, je vous laisse la science, je reviendrai quand ce sera à mon niveau pour la note de lecture.
Merci, monsieur François Bourreau, très célèbre journaliste, qui me fait l'honneur d'être là pour modérer. Et il a ajouté une touche particulière, presque une pré-analyse de l'œuvre. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, chers invités, d'abord distinctifs, parmi lesquels je vois des amis, des frères, des camarades de classe, des parents, comme nous, monsieur Yous, merci d'avoir honoré de votre présence cette activité de dédicace qui est la toute première pour notre auteur Ramat Abadida. La première dédicace, elle est singulière parce qu'elle doit soit lancer effectivement l'auteur, soit l'éteindre. Mais au regard de tous ceux qui sont venus, je crois qu'on va plébisciter l'auteur et lui donner et le consacrer désormais comme un écrivain qui entre dans, comme dit le monsieur le questeur, dans cette aventure parfois épineuse, en raison du fait qu'on va rester. percevoir désormais toutes les critiques, aussi bien positives que négatives. Mais les négatives sont bien souvent les plus nombreuses. Docteur Ousmane, notre hôte, celui qui nous accueille, qui gère cet institut et qui, j'espère, bientôt viendra chez moi comme enseignant. Monsieur l'auteur, merci de m'avoir fait l'honneur d'être associé. C'est vrai qu'il faut dire qu'il a beaucoup souffert. Ça fait 3 mois d'insistance. Je ne passais pas avec les aînés à qui on est tous bien. Mais honnêtement, il faut être sincère, quand il mérite mon déplacement, on est bien contesté. Qui presque tout pris en charge. On m'a souvent dit que c'est un monsieur accueillant. Mais il est vraiment, vraiment très, très accueillant. Il m'a tellement gâté que je me demande si, il n'en fait pas un peu trop. Mais il l'a fait de bon cœur en mon arabe. L'hospitalité légendaire. Parce que quand j'écris l'histoire des Arabes du Congo, j'ai rencontré le Saoudien. Il dit la différence entre l'Arabe choix et le Saoudien. Et ce qui reste du Mohamed, le prophète Mohamed, aujourd'hui, est chez les Arabes choix. Et cette chose, c'est l'accueil. Rester rassemblé vraiment, pas seulement assemblé, il est là incarné jusqu'ici. Jusqu'ici, puisque mon séjour prend le vol de demain. On peut dire qu'il a accompli la mission, surtout avec sa présence ici effective. Je laisserai le soin à l'auteur de faire les remerciements pour la vitamine des invités qui sont là. Mon rôle, c'est de faire la note de lecture. À notre critique de lecture en qualité d'universitaire et aussi en qualité d'écrivain et d'écrivain philologue. Bon, c'est un nouveau concept que vous avez bien fait de conférer à notre élu. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'écrivain? C'est quoi un écrivain? Moi, il m'arrive souvent de discuter pendant des heures avec M. Estelle, l'équipe. Qui chaque fois nous rappelle, il y a telle histoire, l'histoire des rabbins, l'histoire de tel village, l'histoire de la colonisation. D'ailleurs, je risque de trahir quelques projets que nous avons ensemble, parce qu'on va faire une descente pour voir comment les stigmates de la colonisation chez nous. Parce qu'on oublie dans l'histoire du Cameroun que même chez nous, à l'extérieur, il y a eu des francophones. On a tendance à considérer que le gouvernement pour le sud a probablement fait le tour de ces villages pour récolter des informations et donner à la communauté nationale et internationale des faits historiques, quelque peu, disons, oubliés. Ça fait déjà de lui un écrivain. Et nous avons la chance d'avoir souvent des aînés qui sont là, qui ont une double formation. Là, je parle de Esther Campson, je peux parler aussi de tous ces aînés qui sont là. D'avoir connu la tradition, nos contes, nos proverbes, et d'avoir fait l'école, et d'avoir cette instruction qui est là. Par exemple, M. Younous m'a fait savoir, quand j'ai écrit le poème, j'ai écrit un poème à l'honneur du président de la République lors de la remise du trophée que l'orchestre a organisé dans le cadre de la rencontre avec Esther de Marwa. Il m'a fait savoir, par exemple, que le cheval, j'en ai parlé, mais il y a un aspect que j'ai négligé. Pas que j'ai négligé, mais que j'ai omis, à savoir qu'il m'a fait sortir un proverbe très merveilleux, que si les bœufs existent, c'est parce qu'il y a le cheval. Tout simplement parce que s'il y a un voleur qui vient voler les bœufs, c'est avec le cheval qu'on va courir pour attraper le... Qu'est-ce que c'est si ce n'est que de la littérature? C'est de la littérature. Et c'est notre chance aussi de côtoyer ces génies, de les écouter, alors que nous ne sommes pas éternels. Il faudra en profiter maximalement. Et donc j'ai refusé qu'on dise écrivain. J'ai dit l'écrivain de l'octroi, à ma c'est toute cette catégorie de personnes qui ont une littéralité, qui ont une littéralisation forte en raison de leur culture et de leur histoire. Après eux, la génération de fonctionnaires qui grandissent à Yaoundé n'auront pas ce génie-là, inévitablement. Donc, j'ai été long à l'introduction parce que je ne pourrais pas passer sans en parler. Merci beaucoup. Alors, revenons au texte qui nous ramène ici, Ramada Petita, Aïcha. Ah, c'est vrai que c'est un cri de colère, ce point d'exclamation. Alors, très rapidement, mes chers invités, le texte est publié donc en 2025, donc tout récemment, aux éditions Guiguez. C'est une édition d'un jeune, Esaïe, qui est installé dans le siège de l'édition et à Maroua. Et très dynamique quand même, parce que moi-même, j'ai publié deux livres. Ensemble et tout, et Fable Arabe Choix. Ce n'est pas le moment pour moi de parler de mes œuvres. Mais c'est dire que c'est un auteur, c'est un éditeur qui a déjà la confiance de quelques auteurs un peu confirmés. Alors, Ramada Petita, le modérateur aura l'occasion de le présenter en profondeur. C'est un administrateur d'entreprise qui n'a pas au fond fait des études en littérature et en linguistique à la base. Donc, il est venu dans ce qui est préservé en termes de aller. Ceux qui ont fait des études de lettres, ça va la littérature et compagnie. Il a osé, je peux dire que les paroles des rêveurs, c'est un écrivain en herbe qui est en train de vouloir, grâce à vous, récolter ses premiers épines, mais aussi ses premières épines, parce qu'on va, bien, comme on dit au quartier, t'es allé pour être propre. Alors, c'est un écrivain premier pas, on peut dire débutant, parce qu'il a son premier livre, mais qui a quelques manuscrits quand même en voie de publication. Il n'avait pas son premier essai. Il est en train de préparer déjà le second et le troisième, et j'espère au-delà, il pourra faire carrière, parce qu'il a la carrière d'écrivain. On peut être auteur sans être écrivain. Être écrivain, c'est un statut conféré par le public, c'est le début de publicité à cet écrivain. Alors, comme dit le grand frère Foro, j'ai lui également concédé le concept de d'écrivain d'Oro parce que l'écriventologie, c'est la science de l'écrivain. Et il a écrit un livre qui pose une controverse scientifique et qui a suscité une sorte de juridisme, hein, à savoir la qualification du fait pénal. Je vais faire une note à un journal pour expliquer à peu près ce doit être la question. Est-ce que, on s'est posé la question, est-ce que le fait qu'une femme prenne des cadeaux d'un homme amoureux et en soi un crime, un délit, on verra bien. Et le fait de susciter une polémique, c'est ça l'écrivain. On a vu avec certains écrivains qui ont été amenés au tribunal, que j'ai défendu. En raison du fait qu'une problématique est posée, qui n'est pas de l'ordre seulement de la fiction, mais qui relève de l'ordre du juridisme ou de l'ordre de l'éthique philosophique, etc. Alors, en réalité, l'écrivain truc est celui qui cherche davantage la question scientifique et technique que la culture et le folklore. Et il vise donc à avancer la science. Et c'est le cas de ce livre, parce que d'un point de vue prospectif, on se demanderait. Que ferions-nous de ces femmes qui nous poussent à construire une maison, financer les études, à qui on trouve le travail, et qu'un bon gigolo vient nous ramasser. Ça ne se pose pas de questions. Alors, revenons donc au thème. Apparemment, plus de 90% des hommes connaissent ça. Ou ont connu d'une manière ou d'une autre. Alors, le thème, de quoi parle le livre? Le thème principal, c'est ce qu'il appelle lui-même la manipulation émotionnelle et la trahison. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas lu. Je ne sais pas si je dois faire un petit résumé avant de dans la scandalisé. Khalid est amoureux de Aïcha depuis l'école de la 6e scandale. Il est tombé amoureux d'elle. Il a eu un projet de mariage avec elle. Et pour ce faire, il a dû se sacrifier en donnant des cadeaux, en l'aimant, etc. etc. Et comme seules les femmes savent le faire, elle a trouvé toutes les raisons du monde plus tard pour épouser un autre homme. Et face à cette déconvenue, à cette déception, il induit un procès et le gagne, même si de manière magnanime, il l'a. Donc, c'est ça l'histoire en un mot. Alors, donc, le thème, c'est la manipulation émotionnelle, la trahison, c'est-à-dire le fait qu'elle a choisi un autre homme, sur l'engagement amoureux, plus particulièrement sur son aspect de constance à l'épreuve du temps, c'est-à-dire est-ce que la sincérité et la réciprocité de l'amour peut durer sur le temps. Là, c'est une problématique importante. Demander à une femme attendre 7 ans, est-ce que la sincérité et la réciprocité des sentiments peuvent rester intacts face à l'épreuve du temps, face à la constance. La constance est l'une des plus grandes vertus de l'islam. Et je remarque que chez les Arabes, par exemple, le mariage s'est fait très vite. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas trop précipité? Dès qu'on voit la famille, on dit, bon, avant le ramadan, avant, parfois même en 2 semaines, on fait un mariage. Il arrive même qu'on se réunit pour faire le mariage d'un homme, ça se gâte. Et puis un homme célèbre dit que je prends la femme et sous le champ, la cérémonie change. Donc les Arabes peuvent faire un mariage éclair. Alors, un temps, je me suis dit que c'était. Mais c'est plutôt un peu sage. Hein. Parce que l'attentisme en amour, souvent, induit ce risque de déception, de déconvenue, etc. Alors, le livre, comme dit le modérateur, c'est le procès de l'amour. C'est le procès de l'amour. De l'amour scolaire, qui est un amour initiatique. Le premier amour est souvent un amour qui nous déçoit, mais en réalité qui nous instruit en raison du fait qu'on apprend comment aimer. Parce que comment aimer, c'est aussi comment apprendre à perdre. Aimer, c'est savoir avoir quelqu'un, mais davantage apprendre à le posséder, c'est-à-dire le garder. C'est là que le premier amour, dit amour scolaire, est un amour initiatique. La problématique de la déconvenue, du chagrin d'amour, des peines de cœur, on appelle ça des remèdes dans chez les jeunes de Brunet. C'est-à-dire la déception, le fait qu'une femme laisse. Alors, pourquoi le personnage a eu si mal? Parce qu'il est tombé amoureux, passionnellement. Il a connu ce qu'on appelle une dépendance affective. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, bon, excepté nos aînés qui ne connaissent peut-être pas cette réalité, son mari a déjà 20 ans. Mais aujourd'hui, avec WhatsApp, les réseaux sociaux, il faut appeler matin, soir, écrire. Si on ne voit pas le message de notre bien-aimé, on ne peut pas dormir. Il faut qu'elle réponde, il faut qu'elle écrive. Et on crée une société de dépendance affective qui induit parfois des relations toxiques avec ce qu'on appelle des pervers narcissiques, c'est-à-dire une femme qui crée un amour sans retour, qui implique les dépenses, les sacrifices, avec des stratégies manipulatoires et malicieuses. On te fait leurrer un projet de mariage, on te siphonne et on te jette. Moi, j'en sais quelque chose parce que j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui ont financé l'école des filles, cherché un concours. Au moment où on te donne, ils ont l'air d'argument, hein, quand l'école va finir sur le mariage, quand elle va avoir le travail sur le mariage, quand elle va être affectée, quelque part vous allez vous marier, et dans ce quelque part vous allez vous marier, et en marier un autre. Et ça, c'est une tragédie que beaucoup d'hommes rencontrent et qui en font des témoignages. Je ne vais pas lire des passages, parce que pour les dépenses et les sacrifices du personnage, la page 16, pour les stratégies malicieuses, la page 34, je pourrais nous en lire les extraits, mais je préfère, pour des raisons du temps, ne pas lire des vastes extraits. Mais pour ceux qui ont un exemple, la page 16 et la page 34 sont des passages illustratifs de cet état de fait. Parce que ce garçon, la dépendance affective, c'est quoi? C'est une sorte de syndrome de Stockholm. Hein? C'est-à-dire, vous êtes là, la femme ne vous montre même pas des preuves d'amour concret. Bon, le bon amoureux, le mou, dépense tout, donne tout, mais le bon gars est caché. Et toi, tu es là,
Pour un sourire, tu dépends de 200 000, pour un sourire, tu dépends 100 000. Et le bon gars, lui, consomme, entre guillemets, gratuitement, parfois avec ton argent, qui paie le préservatif ou qui paie autre chose. Alors, maintenant, ça c'est le thème. Maintenant, le genre littéraire. En fait, c'est un roman. Est-ce un roman d'amour, un roman judiciaire? On se pose la question. Mais c'est davantage une nouvelle, je crois, de manière stricte. Le texte n'a que 88 pages, comportant qu'un chapitre entouré d'un prologue et d'un épilogue, d'une introduction et d'une conclusion. Il n'a que deux personnages nommés, Khalid et Aïcha. Aïcha qui est le personnage éponyme, dont le nom porte sur le titre. Le texte n'a pas trop de descriptions, n'a pas de portrait des personnages, très peu de dialogues, même pendant les réquisitoires ou même pendant les plaidoiries. Il est donc direct, il est incisif et c'est davantage le style, ce genre de style, ça rapproche davantage d'une nouvelle. Parce qu'un roman, c'est beaucoup plus des personnages ancrés dans des familles, dans l'histoire, et puis c'est en plus années. Donc, l'auteur donc écrit ce roman, il n'est pas le premier. Il y a Djaïli, qui a écrit beaucoup sur la problématique de l'amour, parce que la polygamie, le mariage forcé, tout ça c'est l'amour, dans le sens large. Et moi-même j'ai écrit L'heure de l'amour sans retour, qui est un genre de roman. Alors, l'écrivain fait donc un roman psychologique. En réalité, davantage, il décrit les états d'âme de ce personnage. Quand vous lisez le roman, vous allez voir seulement, puisqu'il est amoureux, il est dépendant affectif, il attend un espoir qui ne vient pas, il est déçu, etc. Donc, c'est vraiment un état d'âme. Qu'est-ce qu'un roman? Il y a plusieurs types de romans. Le roman peut nous permettre de découvrir l'état d'âme, l'âme d'un personnage. Benjamin Constant est un auteur très prolifique dans ce qu'il fait. Il est le modèle de l'écrivain du roman psychologique. On lit un roman pour connaître l'état d'âme d'un personnage, et il le fait très bien dans son texte. Le roman peut aussi servir de décrire la société, ça c'est le rôle de Balzac à l'époque. Le roman peut nous permettre de redécouvrir un monde perdu. C'est Proust qui est symbolique de ça. Le roman peut également nier un monde, ça c'est les surréalistes, ou inventer un monde qui n'existe pas. Là, je l'ai fait par exemple dans mon roman Tomaï. Alors, ça c'est pour dire le genre. Pour résumer cet aspect, je dirais qu'on a en face davantage une nouvelle qu'un roman, dans le sens strict et universitaire du terme. Alors, maintenant, cette littérature, est-ce que c'est un roman? Dans le sens où on est dans la fiction, on est dans la réalité, il faut quand même qu'on lève le doute ici. Est-ce qu'il y a d'abord procès? Ça, c'est une bonne question. Parce que je pose cette question parce que c'est ceux qui ont une grande culture littéraire. Il y a l'auteur Kafka, c'est sûr que M. Picoureau le connaît, il a écrit Le procès. C'est un roman où, pendant la Gestapo, pendant l'occupation nazie de la Tchécoslovaquie, on te liquide sans procès. Tu as les chefs d'accusation sur toi, on te dit que tu es un collabo, je ne sais quoi, et puis les policiers, la Gestapo, la police secrète nazie, te liquident, alors qu'on devrait t'amener au tribunal. On fait ce qu'on appelle une corvée de bois. On fait une exécution sommaire, alors qu'il devrait avoir procès. C'est Kafka qui l'a inauguré, ce genre de roman. Mais lui, peut-être qu'il n'y a pas exactement procès, et il en fait. Est-ce qu'il est l'inverse de Kafka? Ça peut être une bonne chose, d'innover. Alors, je me suis posé la question si le roman ne devrait pas être intitulé plutôt « Aïcha n'est pas à la barre », alors qu'elle devrait y être, subjectivement, mais objectivement pas. Est-ce que ce texte ne devrait pas être à la négation? « Aïcha n'est pas à la barre », pour dire que, malgré ce qu'elle a fait, la justice n'arrive pas encore à qualifier ses faits relevant d'une affaire pénale. Parce qu'il faut le dire, hein, même la rupture de fiançailles ne peut pas être pénalisée. Si vous faites une fiançailles avec une femme et vous lui donnez tous les cadeaux, et puis elle refuse, elle n'ira pas en prison pour ça. Même si au village, souvent, le chef du village va dire que tu ramènes tout, même les biscuits, les papas, les babouches, etc. On t'a fait une guitare, des choses drôles. Moi, je me souviens bien du divorce d'une de mes sœurs. Le monsieur a exagéré jusqu'aux manches. On a remboursé, puisqu'on voulait éviter là-bas. Bon, c'est un texte dans des fictions qui s'inscrit dans ce qu'on appelle une dystopie. C'est-à-dire, au fond, le procès ne devrait pas avoir lieu. Mais on a dit que une note d'abord d'avertissement dit que dans le droit positif camerounais, ce texte relève d'un univers imaginaire où il y a une distance vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'interprétation des procédures judiciaires. Monsieur Le Kester a donné son point de vue, on l'a consulté un procureur, on a consulté beaucoup de personnalités. Et donc on dit que c'est une dystopie pour dire que c'est un roman qu'il faut prendre dans l'univers purement fictionnel et à ne pas prendre au premier degré, bien entendu. Alors, maintenant, qu'est-ce qui caractérise singulièrement le style de l'écrivain? Le texte est marqué par un style sentencieux, c'est vraiment proverbial, très belle phrase, qu'on peut retenir en lisant, avec une moralité de type fabuliste. Quand on voit le prologue et l'épilogue, on a l'impression qu'on lit La Fontaine, hein, vraiment, il est dans la moralisation. Je crois que son but, c'est davantage même ça. C'est un tribunal à la moralité, davantage qu'un peut-être un tribunal juridique, et parfois poétique, s'appuyant sur le procédé de l'isotopie, c'est-à-dire de la répétition. Vous pouvez lire des pages où vous voyez comment il revient sur sa déception, sur ses larmes, sur ses sacrifices, et il fait donc, dès la répétition, dès l'insistance, dès l'amplification, dès l'hyperbole, et avec beaucoup, beaucoup de suspense. Et ça, c'est vraiment génial pour un auteur, parce que quand on le lit, on est accroché, c'est une très bonne chose. Il s'inscrit dans la rhétorique littéraire de l'éloquence judiciaire, parce que même avant le tribunal, le personnage de H est jugé à travers l'auteur, parce qu'il en fait un portrait moral, plus ou moins, bien entendu, les réduisant, puisque elle a versé dans les coqueries, dans l'abus de faiblesse, parce qu'un homme amoureux est très faible. Alors, il utilise donc ce qu'on appelle le pathos, c'est-à-dire les ressorts sentimentaux, qui relèvent naturellement de la littérature de l'émotion. Son style est simple, accessible, le livre est bien écrit, avec très peu de fautes. Il est très agréable à lire. Et là, je félicite l'auteur, parce qu'il a fait vraiment un travail de nettoyage respectable. Alors, ma conclusion, qui est un peu longue, parce que je voulais d'abord répondre à un préjugé. Est-ce qu'un roman d'amour est un roman intéressant? C'est répondre à la question aussi, est-ce que l'amour est intéressant? L'amour est un peu intéressant quand même, parce que l'amour peut être destructeur. Depuis la Bible, Salomon, Samson et Dalida, on a vu comment l'amour détruit un homme de pouvoir. La problématique de l'amour dans la littérature africaine n'est pas trop développée, parce que nous, les Africains, les Senghor, les premiers écrivains de Césaire, ils sont entrés dans la littérature, ce que l'on appelle la négritude, dans une combativité. On est quand même dans le temps de la décolonisation, dans le temps des combats pour la reconnaissance de l'homme noir, les combats du développement. L'amour n'a pas eu sa place très tôt dans la littérature camerounaise, africaine en général, parce que le continent africain jusqu'à aujourd'hui, c'est un combat, c'est un continent qui se bat. Mais l'amour ne doit pas pour autant être négligé, oui, dans cette littérature. Les grands auteurs américains comme Hemingway, l'écrivain de tous les temps, a fait des romans d'amour. La guerre de Troie a eu lieu à cause de l'amour. Hélène a occasionné la guerre de Troie. La guerre entre l'Égypte et Rome avec Cléopâtre, c'était une guerre d'amour. Donc l'amour à l'époque, depuis l'Antiquité, a fait l'objet de guerres. L'amour est une rose qui a des épines. L'amour de Khalid est aveugle, mais la déception lui a rendu la vue. On peut dire que parfois l'amour est instructif, ça nous apprend à connaître l'homme, l'autre. En amour, il faut le dire, le juge l'a dit, trompe qui peut. L'amour est d'abord cela. Alors, j'ai posé avec le pasteur qui me disait que l'amour, c'est la souffrance de l'homme. C'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, des enfants, de l'éducation, du foyer. Depuis la Bible, tu te nourriras à la sueur de ton front, comme pour dire, on ne dit pas que tu seras riche à la sueur de ton front. Nourrir la femme, c'est une sueur du front. Et ça, ça montre que l'amour pour l'homme, depuis le néolithique jusqu'à nos jours, c'est un véritable fardeau. C'est pour cela que le mot passion vient de partir et qui veut dire souffrir. Et l'amour peut induire ce qu'on appelle la déréliction. La déréliction, c'est le fait que quand une femme nous abandonne, on peut en mourir. Le suicide, le crime passionnel, on connaît les conséquences. Il y a des hommes qui se sont mariés une fois, ils ont divorcé une fois, 30 ans plus tard, ils ne sont jamais remariés. Je connais un collègue comme ça, qui vient malheureusement de décéder. L'amour peut induire la fixation, la crispation, la jalousie, les congesticides, c'est-à-dire les mariticides. Les maris qu'on tue, les femmes qu'on tue. Hein. Le taux de féminicide étant très élevé, c'est grand. Tout ça, c'est l'amour, en fait. Les maladies d'amour. La maladie d'amour, même à un nom, ça s'appelle la tumérance. Le fait d'être malade d'amour est déjà nommé. Tumérance, c'est là, le fait de l'amour. Et puis, il y a un chercheur japonais qui nous a démontré que le syndrome de Takoshi, c'est un japonais qui nous montre que. Un homme qui atteint des chagrins d'amour peut avoir un infarctus. Rien que pour ce sentiment d'amour et cette mort créée par le fait qu'on nous a abandonnés, qu'il appelait Takeshido, est accepté par tous les types. Et je vous rappelle que tout récemment, à l'Université de Ngaoundéré, quelqu'un a soutenu une thèse de doctorat disant que si une femme amoureuse a été, par exemple, chassée ou répudiée, elle peut devenir une folle. La folie peut être induite au fait d'être répudié. Et c'était scientifique, c'était tout un doctorat. Donc l'amour fait des ravages, l'amour déconstruit, détruit les hommes, les femmes. Donc c'est un thème, c'est ma note de fin, pour dire que nous ne trouvons pas peut-être dans l'œuvre de notre cher ami Ramat un thème banal. C'est un thème important et qui est un thème populaire et qui peut lui ouvrir les portes de l'univers littéraire. Une fois de plus, monsieur l'auteur, je vous félicite et permettez-moi, puisque probablement je ne prendrai pas la parole, à mon humble niveau, en tant que président des écrivains camerounais, représentant au Nord, j'aimerais vous dire que vous êtes, à mon humble avis, consacré comme écrivain dans le panthéon de tous les écrivains africains. Je vous félicite.